la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Allez, vous l'avez compris, on va se poêler aujourd'hui. C'est un spécial humour. Et on va se poêler avec tous nos chroniqueurs qui sont là, avec Nico.
Salut Nico. Bonjour à tous.
Tu as prévu des blagues. Ça va être drôle aujourd'hui. Allez, également, qui c'est qui est là? C'est Louise. Salut Louise.
Salut les gens.
Et Louise, des livres pour nous faire poêler aujourd'hui?
Oui, carrément, oui.
Et est-ce qu'il y aura des blagues?
Il y aura 2 blagues par personne, minimum.
Ok, génial. Également, elle est là. Alors, on la comprend pas toujours. Sachez qu'aujourd'hui, on va encore moins la comprendre. Elle est là, Valérie, salut.
Bonjour, je suis là, un ami.
Tu vas nous faire poêler, toi aussi?
Je sais pas, il faut que j'en parle à mon esthéticienne.
Il paraît que tu as eu beaucoup de livres, c'est drôle. Ouais, c'est marrant, ça. Allez, on la tente.
Elle était bonne, ça.
Elle est pas mal, ça commence.
On commence bien, il y a du niveau.
Il nous manque Pauline.
Salut tout le monde.
Salut Pauline. Mais que fais-tu Pauline?
Et en plus aujourd'hui elle a pillé. Mais tu crois halluciner. Mais faut pas s'habiller comme ça dans un studio Pauline.
D'ailleurs, t'as fait pour mettre les plumes.
Elle est tip top hein.
Le studio n'est pas ouvert magnifique au public d'ailleurs. On commence par qui pour se poêler? Tiens, je sais pas, Nico. Allez Nico, avant de parler de ton livre, tu sais qu'on avait dit il y a 2 semaines qu'on devait raconter une blague avant de présenter le livre. Donc on te laisse faire.
Ah là, je suis sec. Non, mais j'ai complètement zappé. Moi, j'en cherche une, je vous la fais après.
Nico.
D'accord.
Non, c'est pas sûr.
Oh, c'est vrai pas, c'est vraiment pas de bonne aloi. Là.
Allez, c'est... Nico, tu nous présentes quoi?
Eh bien, moi, je vais vous présenter Camarade Wang achète la France. En fait, dans ce petit livre qui est fait par Stéphane Fier, c'était ma blague, ça, tu comprends? Il parle en fait de Wang Dexiang, un vice-ministre du commerce de la République populaire de Chine, et qui est en visite en France, en fait. Il se garde rapproché, oui, collaborateur, et si très joli camarade de lit, voilà. Son objectif, il veut faire ses courses dans le pays. Il a plusieurs milliards de dollars, d'euros.
De voilà. Yens, non?
Non, de Renminbi, ça s'appelle, en Chine.
D'accord.
La monnaie. Et en fait, il veut faire ses courses dans ce pays comme un vaste discounter. Donc, il n'a aucun scrupule, ce petit camarade Wang, tu vois. Et en fait, on s'aperçoit dans ce livre que, si tu veux, les Français sont vraiment des abrutis. Donc déjà, tu rigoles beaucoup de notre condition. On ne sait pas négocier, on se fait enfler sans arrêt. Donc déjà, ça te fait pas mal. Voilà, la délégation, elle profite allègrement de la cupidité des Français pour acheter leur entreprise, les hôtels, les terres agricoles, enfin tout en France, ce qui est achetable, puisque pour les Chinois, il n'y a que le bon prix et déjà la moitié du prix. C'est ce qu'il dit, ou le camarade de Wang. Voilà. Alors, à un moment donné, en fait, bon, je vais lâcher mon...
Oh non !
Bon, bah, parce que moi, j'attendais que ça, en fait, je me régale. Bon, bah, parce que c'est comme ça, la demande générale, je vais continuer à camarade de Wang. Alors, jusqu'à ce qu'une belle universitaire, en fait, croise la joyeuse équipe. La belle universitaire s'appelle Sandrine. Elle a fait ses études à Shanghai. Elle est mariée avec un monsieur un peu plus âgé qu'elle et avec qui elle a eu 3 enfants. Son mari travaille un peu à l'étranger, il n'est pas souvent à la maison. Voilà. Et du coup, elle rencontre le camarade Wang dans le train. Et le camarade Wang lui dit « Mais vous êtes universitaire de Shanghai, vous parlez le mandarin, ça m'intéresse, vous allez devenir mon interprète. » Et bien sûr, il lui fait quand même les yeux doux parce qu'elle est assez jolie, même si elle a plus de 40 balais.
Voilà. Comment ils font les yeux
ça
doux?
Ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Les yeux doux, bah, en fait, ils font les yeux ronds parce qu'ils ont les yeux bridés, donc ils essaient de faire les yeux ronds. Ouais, c'est compliqué, ben, je sais, mais bon, on est en Chine, les gars. Donc, une fille. Voilà. Donc,
Michel M nous envoie un mail, il adore ta chronique.
Alors, elle rêvait d'être interprète, mais en fait, elle est prof à la Sorbonne. Et juste le temps d'une cérémonie, elle devient interprète. Mais quand les raviolis à la chair de crabe sont délectables, on n'hésite pas à se resservir. Ça, c'est un dicton chinois. Voilà. Le ravioli à la chair de crabe, vous avez compris ma métaphore. Donc, après 20 ans dans le monde chinois, notre ami Stéphane Fier, parce qu'il n'est pas pieux fier dans son livre, qui a écrit ce livre, en fait, nous offre une satire vraiment experte. De quoi rire à gorge déployée, mais aussi de frémir. Et si c'était là notre réalité? Voilà, Wang Desheng, un personnage omnipotent, dictatorial, extrêmement sévère et dangereusement séduisant, qui a quand même dans sa cour six mignonnes jeunes chinoises qui l'accompagnent pour ses parties de lit. Voilà. Et ses collaborateurs qui, en fait, sont des collaborateurs aussi mesquins, avides, cupides que lui. Donc, ils essayent en fait avec l'argent de récupérer tout ce qu'ils peuvent investir en France. Alors, en fait, ce bouquin, il traite aussi de situations qui ont vraiment eu lieu en France. Hein. C'est pas
oui, dans le Bordelais,
comme ça. Voilà. En fait, les Chinois ont acheté énormément de choses, si bien que d'ailleurs, je crois que c'est Montebourg qui est intervenu pour interdire la vente de certains éléments qui font partie du patrimoine ou en tout cas qui seraient liés à des autonomies énergétiques, de transport, etc. En fait, ils investissent partout, les Chinois. Ils ont un pognon de fou, hein. Mais ils dépensent pas l'argent. En fait, c'est vraiment des négociateurs hors pair. Et donc, ils font craquer les gens et ils ont à peu près à moitié prix ce que tu aurais normalement dû acheter, toi, en tant qu'Européen. Quoi.
Sauf les footballeurs. En ce moment, il est payé un peu plus cher.
Bah, les footballeurs chinois.
Non, mais les Chinois,
non, les footballeurs européens.
Les Chinois, ils n'investissent pas chez les footballeurs, ils sont pas fous, quoi.
Si, en ce moment-là, bon. C'est ouf.
Ça, c'était folie, les Qataris, quoi. Je crois, qui investissaient, mais bon.
Ils ont investi plus que les Anglais au mercato d'hiver.
Bah, c'est Anelka qui était en Chine, non, par exemple?
À l'époque, oui.
Alors, en fait, ce qui se passe là, on pourrait le transposer aussi au Qatar, on pourrait le transposer aux Saoudiens, etc. C'est quand même actuellement ceux qui ont énormément d'argent. Vous savez que dans les prochaines années, le pétrole et toutes ces richesses en fait font un peu diminuer, ce qui commence à être le cas. Donc en fait, ils sont en train d'investir partout pour que ça leur rapporte de l'argent, pas juste pour avoir les objets, tout ça. Hein, c'est pour des rapports, quoi, et donc des transformations aussi des objets. Donc les hôtels, etc., etc.
Moi aussi, j'investis pour des rapports, mais ça marche. Pardon, vas-y, continue.
C'était de l'humour.
Oui. C'était
Donc en fait, ce roman est une parodie caustique et enjouée de la Chine capitaliste contemporaine dans un style atypique où se mêlent récits et réflexions intimes avec humour, raccourci, simplicité. Ça se lit super vite, très très vite. Voilà, qui ramène toujours le discours à l'essentiel. On s'étonne, on s'indigne, on rit, on sourit, on frémit même, on tremble. On se dit bon, même s'il y a 10% de vrai de tout ce qu'il dit, ça fout quand même les boules, quoi. Parce que à la fois dans la méthode, dans la description. Alors, c'est traduit en fait l'interprète. On a sa réflexion intellectuelle. Est-ce que je dois lui dire qu'ils m'ont dit ça? Si je lui dis, mais alors du coup c'est du patrimoine national qui s'en va, etc. Donc on a le sentiment, on a la traduction, on a la pensée de Wang qui dit mais ces Français ils sont abominables, je vais essayer de les avoir, déjà je vais leur proposer la moitié du prix, et puis de toute façon comme je sais que lui il est en plein situation de divorce, il a besoin de pognon, donc en fait c'est une roublardise terrible, c'est un univers qui est extrêmement malsain, quoi. Donc on en rit, donc c'est très humoristique, c'est très drôle, mais en même temps c'est très caustique, ça fout un peu les jetons, quoi, parce qu'on se dit si tout le patrimoine français part à ceux qui ont de l'argent, qu'est-ce qui va nous rester, quoi. Voilà, donc voilà, ça nous fait aussi un petit peu voyager sur la France, donc on parle de Clermont-Ferrand, on parle de Lyon, on parle voilà de Paris.
Et ce sont que des transactions qui sont vraies ou l'auteur est allé au-delà, imaginer
Moi, j'ai pas vérifié ça, hein, parce que j'étais en train quand j'ai fait ça.
Un bout.
J'ai pas vérifié, mais Mais je sais, pour avoir lu certains nombres d'articles, que ce sont des situations qui existent, qui ont eu lieu, donc, notamment dans le Bordelais, sur les moyens de transport, sur les aéroports, notamment.
De Toulouse,
voilà. Les aéroports régionaux qui ont été rachetés avec des conditions, etc. Mais quand même, c'est assez flippant dans l'ensemble.
C'est intéressant comme livre au final.
Oui, c'est un livre.
Ta note de musique sur 5, on va noter maintenant, on va dire sur 5, 3 notes de musique.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dièses. L'auteur, donc il a écrit La promesse de Shanghai, Double bonheur, des bouquins qui ont
attrait avec la Chine.
Qui ont attrait avec la Chine, parce qu'après, enfin, lui, Stéphane Fier, en fait, il a fait Sciences Po, 82, des études de chinois et de sciences politiques à Harvard. Ensuite, il fait une carrière professionnelle aux USA, et ensuite, il travaille à Shanghai pendant à peu près 20 ans.
Si donc, c'était dit que quelqu'un parlerait de son livre avec l'accent chinois, il aurait été dégoûté. Il fait tout ça pour rien. Alors, lui, arriver à ça, quoi.
En fait, lui, ce qui est particulier, c'est qu'il parle le mandarin. Donc, le mandarin, c'est quand même une langue très très compliquée. Il faut savoir que pour parler chinois, faut avoir envie, quoi, parce que voilà.
Moi, je mange des mandarines. Mais c'est autre chose. Ah oui, c'est vrai qu'on nous avait dit plus de calembours.
Donc du coup, c'est quelqu'un qui connaît énormément bien la vie chinoise, qui de l'intérieur, et qui l'a analysé en revenant en France, en se disant comment aujourd'hui la Chine, qui était un peuple en développement et un peu pour nous Européens un peu arriéré, un peu on va dire en voie de développement, aujourd'hui est en train de prendre le revers et est en train de récupérer. Tous les biens parce qu'ils ont énormément d'argent, même si c'est en train un peu de se tasser, quoi, quand même. Hein. Voilà.
Ok. Bon, à conseiller ou pas
enfin... Ouais, moi je le conseille. J'ai passé un bon moment à lire ça. Ça se lit vite, c'est sympa, c'est pas prise de tête du tout, mais ça donne une lecture un peu géopolitique, c'est intéressant.
Ok, merci Nico. Allez, on va continuer avec un livre, mais surtout, avant, une histoire. Alors, qui va lire? Oh, il y en a une qui paraît être à point, c'est Valérie. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Valérie, si tu ne parles pas au micro, on ne t'entendra pas. Hein. Alors, la blague. Alors... Elle a même écrit ses blagues. Attention. Ah là là, n'importe
quoi. Je sais pas, vous méritez tellement des bonnes blagues. Non, mais je vais pas vous raconter. Je vais pas faire une blague. Je vais faire mieux. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin avant de partir au travail. C'est très court. On regardait par la fenêtre la neige tomber. J'étais avec mon fils, donc il y a 3 ans et demi. Et donc on voit un oiseau qui décolle en dessus du Lot. Et puis il dit, maman, regarde un tapon. Je regarde. Je dis quoi? Regarde un tapon. Héron, petit, pas tapon.
C'est marrant.
Bravo.
C'est mignon.
Allez, super.
On m'avait pas dit que ça devait être drôle.
Non, mais si, c'est mignon.
À dans 15 jours.
Ouais, très bien. Pauline. Non, ah ouais, je déconne. Non, c'est Valérie. Alors, ton livre, Valérie.
Quel livre?
Tu vas nous présenter, je sais pas, lequel.
Si j'ai envie, je sais pas, il y en a trop. J'ai tellement ri pendant ces 15
Nicole jours. Et Francky, Les Cahiers Esther, 50 nuances de gay.
Non, le Givenchy Code.
Le Givenchy Code.
Ah, j'hésite. Non, je vais commencer. Parce que c'est très court, parce que j'ai pas fait de vraies chroniques, parce que c'était pas des vrais livres. Non, je rigole. Oh. Non, j'ai eu deux coups de cœur, là, dans les 15 jours. Pourtant, c'était mal barré parce qu'au départ, j'avais deux livres pas drôles que j'ai dû aller remplacer d'urgence pour cause de sinistrerie terrible. Non, un qui m'a beaucoup plu, c'est... alors, je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est un MOOC,
C'est une revue de bande dessinée.
Voilà. Qui s'appelle Nicole et Francky, en fait.
C'est quoi un MOOC?
C'est un recueil de...
On en a déjà parlé, Ludo.
Tu suis pas.
Je
suis
rien
là.
Du tout.
Non, j'étais pas là.
Un MOOC?
Un magazine MOOC.
C'est une revue, une grosse revue, un peu comme 21, ouais, un peu comme 180 degrés.
C'est pas du tout ça. Hein.
Ah si.
C'est un cours interactif diffusé sur Internet, un MOOC.
Ah oui, il y a ça aussi,
MOOC.
Oui, mais là, on parle avec un jargon qui
donne assez gros.
Ah, toi, tu parles M-O-O-U-Q-U-E. Moi, je parlais M-O-O-C.
Un MOOC, c'est un petit bonhomme d'un dessin animé qui se balade à travers le monde. MOOC.
C'est Sam Sam.
Non, t'es pas la page. Allez, vas-y, continue.
Et ce MOOC, donc, je vais garder le mot MOOC, car c'est un entier. Il s'appelle Nicole et Francky. Là, c'était le deuxième, troisième. Non, c'était
le deuxième, Nicole.
Le deuxième, voilà. En fait, le premier, ça a été Francky. et Nicole, édité donc chez Cornelius. Et celui-là, c'est Nicole et Frankie, édité par les Requins Marteaux.
En fait, c'est l'inverse, mais c'est pas
c'est
grave.
C'est l'inverse.
Voilà. Mais c'est
non,
pas
non,
grave.
Il faut être précis.
C'est une collaboration entre les éditions Cornelius et les éditions Requins Marteaux. Voilà. Nicole, c'est Cornelius et Frankie, les requins. Voilà. Voilà.
Et chaque fois, ils vont échanger, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Mort s'en suive. C'est super, en fait. À l'intérieur donc, de ce MOOC...
C'est super, en fait.
Vas-y, mets ton petit son. J'ai dit que j'avais pas préparé de chronique.
C'est très bien.
C'est difficile de présenter un livre dans lequel il y a
plein
de
petites...
Qu'on n'a pas lu, c'est ça. Rien qu'à la couverture, où il y a déjà trois mots dessus. C'est bourré de plein de petites BD. Elles sont... c'est pas pour tout le monde. Hein. Amis du premier degré, de la team premier degré, n'ouvrez pas ce livre. Ce livre n'est pas pour vous. C'est parfois un peu trash, c'est parfois un peu salace, c'est... c'est la touche des Requins Marteaux, quoi. C'est l'humour un peu second degré. Mais c'est super bien. Il y a plein d'auteurs en fait qui sont défendus par Cornelius et les Requins Marteaux dans ces MOOC. Donc ils ont chacun une dizaine de pages pour présenter leur BD. Alors d'édition en édition, on retrouve les mêmes. Et en dessus des BD, il y a un petit mot des auteurs de l'auteur du MOOC qui présente l'auteur de BD, et c'est jouissif, hein, c'est plein d'humour. Donc il y a la BD, et en dessus il y a la petite histoire en fait qui colle main, où il parodie complètement la vie des auteurs des BD, et c'est vraiment très drôle, et c'est à dévorer du début jusqu'à la fin. Voilà, vivement le 4, le 5 et le 6, le 7.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais.
C'est très drôle.
Moi aussi je suis d'accord. Voilà. Mais non, mais après, c'est dit. Ben, je peux
sinon
pas.
Sinon, l'histoire, c'est quoi
hein? Ben non, mais il y en a plein de différentes, en fait.
Il y en a plusieurs.
Je sais pas, là,
genre de magazine, en fait.
Voilà, il y a. Je sais pas, là, il doit y avoir. Il y a Blutch dedans, il y a Delphine Panique, il y a Giacomo Nani. Enfin, il y a plein d'auteurs. C'est des styles très différents. Il y a de l'humour un peu enfantin, il y a des fois, c'est trash. Enfin, c'est. Voilà, c'est vraiment hyper, hyper varié. Il y en a pour tous les goûts, mais sauf pour ceux qui prennent tout au premier degré et qui n'ont pas d'humour. Voilà. Là, ceux-là, il ne faut absolument pas qu'ils l'ouvrent, parce qu'ils ne comprendraient pas pourquoi j'ai trouvé ça très, très drôle.
Merci, Valérie.
Mais avec plaisir.
Excellent, comme toujours. Allez, on va passer à...
Moi, j'ai une blague, si vous voulez.
Ah oui, une blague, ça y est.
Coupez la chèque.
Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille?
Non, triche pas. Oh,
regarde.
Nico est sur son ordi sur blague.com.
Et sur blague.com.
Non, moi aussi, j'ai pris toutes mes blagues.
Elle dit, c'est assez. J'ai le dauphin. Et elle se cache à l'eau.
Ah, double blague. Super, Nico. Bravo.
Sinon, j'en ai une autre que je trouvais encore plus marrant. Je voulais dire. Voilà. Alors, à quel temps sont les verbes suivants? Ils ne voulurent pas d'enfants et en eurent deux.
L'imparfait, certainement.
Non, le préservatif imparfait.
Ah. Ok, c'est bon, merci. C'est pas sympa parce que Pauline va devoir raconter
comme
une blague.
Ah ouais, t'enchaîner là-dessus, c'est trop compliqué. Je vais y arriver.
C'est ça quand on dit
oui, j'ai des blagues,
je le sens mal,
ce moment
de la blague, alors.
Vous en vouliez, vous en avez eu. Hein.
Allez, Pauline, une petite blague.
Ouais.
Sinon, tu présentes le livre et tu...
Non, parce que ma blague, elle met dans le thème.
D'accord. Ah, ouais. Allons-y.
Ouais. Donc, c'est madame qui est en vacances et qui appelle son mari pour prendre des petites nouvelles. Tout va bien, ouais, super. Et le chat, non, il est mort. Ah, non, mais ça va pas, tu me balances ça comme ça. Enfin, t'aurais pu me préparer, me dire, je sais pas, il était en train de se balader sur le balcon, tranquille. Bref. Et comment va maman ? Elle était en train de se balader sur le balcon.
Bravo.
Voilà. Donc on est dans mon thème comme d'habitude. Hein. Je vais vous parler d'un bouquin sur la mort.
Yeah.
Voilà. Donc la préface nous annonce le titre. Peut-être d'abord 40 morts à la con de l'histoire. Et donc le titre de la préface, il ne suffit pas de réussir sa vie pour rentrer dans l'histoire. Encore faut-il réussir sa mort. Donc bon, il y a peut-être Ouais, c'est vrai, mais il n'y a peut-être pas non plus de bonnes façons de mourir, pas de façon intelligente. Par contre, selon ce bouquin, il y a des façons un peu plus connes que d'autres. Quoi. Donc Dimitri Casali et Céline Batias, les auteurs qui sont deux historiens, ils nous racontent les histoires de grands personnages qu'on connaît tous.
Le Corbusier.
Non, il n'y a pas le Corbusier, je crois.
Parce qu'il était mort écrasé par un tram, quand même. pas mal. C'est un peu con. Dans l'histoire. Attends, je vais couper ton micro, Nico.
Parce bon, qu'en fait, il veut raconter des blagues. Donc ouais. On va couper le micro.
Il va me couper.
Ok, Pauline.
Donc voilà, soit des morts grotesques, un peu malchanceuses, un peu honteuses. Donc on passe partout, des rois, des politiques, des intellectuels, un peu tout le monde. Alors notamment, on a Attila, fléau des dieux, qui a menacé Rome, qui était sanguinaire, guerrier sanguinaire à fond. Finalement, il est mort d'un saignement de nez un peu trop important. Oh, pas de bol. Pyrrhus, le chef de guerre qui se retrouve à se prendre une tuile dans la tête par une petite mémé pendant une bataille. Du coup, il tombe dans les vapes et ses ennemis en profitent pour le choper, lui couper la tête. C'est plutôt pas mal. Et alors, une de mes préférées, l'abbé Prévost, qui va faire un malaise en rentrant chez un ami dans une forêt, une froide nuit d'hiver, il tombe. Évidemment, on le retrouve le lendemain après avoir passé une nuit dehors. On se dit, bon, bah, c'est terminé, il est mort. Le chirurgien veut faire le procès verbal, voir un peu pourquoi il est mort, commence à l'ouvrir. Et là, pas de bol, l'abbé se réveille. Il n'était pas mort du tout. Mais sauf que l'autopsie va finir par le tuer.
Qu'est-ce qu'on spoil ?
Voilà. Bah ouais, au final, bon, on a des passages, des trucs assez drôles. J'ai bien aimé une petite citation qui a été attribuée à Georges Clémenceau. À propos de Félix Faure, qui est mort après une fellation de sa maîtresse, qui a dit « Il voulait être César, il ne fut que Pompée oh. ». C'était bien vu, quand même.
C'est ça.
Mais voilà, bon, c'est des fins étonnantes, des morts un peu rigolotes, mais c'est pas un livre qui est poilant. C'est pas, on se marre pas, c'est rigolo, mais c'est plutôt, par contre, un super bon livre historique, parce qu'il y a... Voilà, il y a vraiment des détails sur la vie des personnages, une petite mise dans le contexte. Il y a bien des illustrations d'un dessinateur, Herlé. Je me fais couper, pardon.
Dis quoi, un problème avec le sonnecteur, je crois. C'est pas grave.
On est en train de perdre Nico.
Ah, mais tu en parlais des morts.
Non, c'est pas dans le ton.
L'émotion de sonnecteur.
Un sonnecteur de 20 ans. Allez, ouais.
Mais voilà, bon, il y a des petites illustrations qui sont censées être un peu rigolotes, mais moi je les ai trouvées finalement plutôt décalées avec le ton du bouquin qui est pas raconté sur un ton hyper drôle. Et par contre, les illustrations, c'est un dessinateur qui a dessiné notamment Où est Sarko sur c'est un genre de Où est Charlie sur Sarkozy, hyper président, où il est partout. Donc voilà, c'est dans ce style-là. Donc bon. Ça m'a pas fait éclater de rire, mais par contre, je vous le conseille si vous voulez en savoir plus sur des grands personnages historiques. Pour ça, c'est top, c'est vachement bien, c'est vachement réussi. Mais vous allez pas vous marrer.
Vous savez comment il est mort, du Guesclin ? Parce qu'on parle
en buvant de l'eau froide.
Voilà. En fait, il était en pleine bataille, et en fait, il faisait très très chaud cet été-là, apparemment. Hein. Et du coup, il est allé boire à la source qui n'est pas très loin du
Château de
Rendon, en bas de à la Bitarelle, là, quand on contourne la Bitarelle.
Direction de Grand-Rieu.
Voilà, direction de
Grand-Rieu. Il habite à qui ?
Non, mais ça va pas, Héloïse. Non, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?
Mais pourquoi ?
Pourquoi ?
Je sais pas, mais c'est sorti d'un coup, là. Du coup, il est mort comme ça. Parce qu'en fait, il a eu la sécade, quoi. Il a...
D'accord.
Ben okay. C'est ce que raconte l'histoire, hein. Je sais pas si c'est bien vrai.
Moi, je pense que c'est vrai.
Ok, très bien, merci.
Ouais, mais toi, t'as la bite rude.
Allez,
avait dit pas de calembour.
Pas de calembour, c'est à moi. Je vais vous présenter mon livre « La France pour la vie » de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est un livre... Non, allez, c'est à toi,
c'est
Héloïse.
C'est de l'humour, non ?
C'est de l'humour, ouais. Héloïse.
C'est à moi. Donc, du coup, je raconte une petite blague
et
après,
oui,
je
oui,
commence.
Oui, une petite blague. Bon, attends, c'est... parce qu'il faut...
Moi, j'en ai une autre encore, si vous voulez.
Non, c'est bon, c'est fini, toi.
Tu éteins Internet tout de suite.
Blague.com, il y en a marre. Allez, Héloïse, vas-y.
Qu'est-ce qu'une... Alors, attendez, parce qu'il faut que je la raconte bien. Enfin, c'est facile, mais... Qu'est-ce qu'une pomme de terre pour un Belge ?
Une frite, une fois.
Une frite sauvage.
On va faire un boule, hein.
Voilà, j'ai trouvé...
Ouais.
J'ai trouvé cette blague dans le livre On va déguster du nom de l'émission de sur France Inter. Voilà. Donc,
ouais. Ah, et avant
une
de
blague présente... France Inter quand même.
Oui, non, mais France Inter, ils font n'importe quoi.
Oui, c'est vrai.
Écoutez, 48 FM, c'est bien plus intéressant. Héloïse,
donc, du coup, je vais vous présenter, oui.
Avant de parler des... Tu veux pas nous parler des meilleures ventes de livres humoristiques?
Ah oui, du coup, j'ai jeté un coup d'œil ce matin aux meilleures ventes aux livres, des livres catégorie humour sur un grand site de vente en ligne. Et les meilleurs livres... Les meilleures ventes dans cette catégorie sont des livres qui ont beaucoup de rapport avec la télé. En fait, des livres de chroniqueurs de certaines émissions humoristiques... Touche pas à mon poste, des choses comme ça. Il y a aussi l'almanach Vermeaux qui est un grand classique de l'humour, c'est vrai, depuis des centaines d'années, j'imagine. Et voilà. C'est donc cool. Beaucoup de rapports avec les médias.
Tu connais pas l'almanach?
Tu l'as lu, Valérie? Non. Bah,
c'est un almanach, donc tu peux pas dire j'ai lu celui-là, puisque tous les ans il change en fait.
Ah. Mais c'est un almanach avec des blagues très potaches, avec des dessins.
Oui, ça reprend un peu. C'est un peu lourd. C'est là où tu enlèves les
genre blague.com, un truc comme ça.
Pire.
Non, mais un peu. Ouais, c'est pire. Mais bon, voilà, c'est un classique de l'humour, l'almanach Vermeaux.
D'accord, très bien. En fait, je voulais juste ta blague. Nico, tu vas nous présenter ton dernier livre, s'il te plaît. Si, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis tyrannique.
C'est lui le patron.
C'est moi le
patron.
Et là, tu dis pas c'est qui tyran.
Comment parler le belge et le comprendre, ce qui est moins simple. Pendant qu'Héloïse fait la tête. Donc, Nico, peux-tu me répondre à cette question?
Alors, c'est Philippe Génian, une fois, hein. Une fois une fête.
Alors, tu donneras plus des livres de différentes communautés à Nico, hein, surtout quand il s'agit d'humour, s'il te plaît.
C'est un livre, en fait, c'est plus, on dirait, un recueil de mots, voilà, fait par un Belge, Philippe Génian. Génial, Philippe Génian. Philippe Génian, en fait, il a écrit ce livre parce qu'il a l'impression qu'on ne comprend pas le belge. Et qu'en plus, qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas le parler et qu'il faut apprendre à le parler si on est francophone. Voilà. Donc, en Belgique, ils ont beaucoup, beaucoup d'humour. Ils savent distancier ce qu'on ne sait pas faire. En France, des fois, ce serait bien de le faire. Hein, une fois une frite, comme ils disent. Voilà. Ils ont, par exemple, Magritte, qui est un peintre belge et grand amateur de pipe. Ils ont aussi des plats improbables comme le poulet crotte, c'est une sorte de poulet reconstitué, et des expressions d'une truculente insoupçonnée. Vous savez ce que ça veut dire, raclapoter?
Non. En belge? Non, pas du tout.
Ça veut dire rafistoler.
Raclapoter?
Raclapoter.
Qu'est-ce que c'est qu'un enfant cucuche?
Nunuche?
Cucuche.
Cucuche, c'est un enfant unique.
Cet enfant est cucuche.
Ah. Il est mal élevé.
Il est embêtant?
Non, il est crasseux.
Oh, il est cucuche.
Et quand Bruxelles, en plus, quand on dit non, sûrement. Hein,
ça veut dire oui.
Ça veut dire oui, sûrement. N'est pas belge qui veut. Et oui, tout à fait. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est présenté comme sous la forme d'un dictionnaire. Et on découvre des spécialités propres au langage belge. Pardon. Donc, en le lisant, moi, j'ai découvert beaucoup d'expressions qui m'ont fait bien marrer. Et que je connaissais pas, bon, de toute façon, je connaissais pas le belge, c'était voilà, pas mal.
Par contre, tu le fréquentes quand même.
Mais par contre, je les fréquente énormément. Ouais. Et quand je vais en Belgique, c'est vrai que quand on les écoute parler, t'es assez mort de rire parce qu'ils ont plein de petites truculences comme ça dans la parole, dans la voix, dans les mots.
Le septante, c'est énorme.
Le septante, voilà.
Ça rêvait, quoi.
Et oui, dans la façon que.
Mais c'est vachement plus logique que le 70.
C'est d'un côté, ouais, en plus.
Bah oui.
Bon, là-dedans, il y a aussi un petit peu d'humour un peu vulgaire, voilà, en dessous de la ceinture. Mais bon, moi, ça ne m'a pas gêné. Mais ça peut...
Ah bon, après... on peut aider à la compréhension aussi.
Voilà, ça ne m'a pas du tout gêné. Non, d'ailleurs, j'ai une blague, si vous voulez. Ah tiens, on va faire une petite pause. J'ai une blague pour vous
qui
est très bonne. Ça pourrait être une blague belge, d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, avec la création de la bande postale, ils ont envoyé des courriers à la banque postale pour dire ben, « Nous sommes très heureux de vous faire découvrir un nouveau concept de placement. » Le tatouage. En fait, de quoi s'agit-il? Donc, en fait, c'est une banque qui propose...
Chinois, là.
Qui propose...
Wang vient de racheter la banque postale.
Ouais. Non. Donc, vous faites tatouer, c'est pour toi, en fait. Pas pour vous, mesdames, je suis désolé. C'est pour toi. Vous faites tatouer 1 € sur votre sexe. Et ainsi, vous aurez le plaisir d'avoir 4 avantages. Lesquels sont...
Eh bien, ils peuvent se transformer en 100 €.
Non.
Enfin, pour moi, 10 000, mais...
Non.
T'as toujours de l'argent liquide à porter de même.
Ça, c'est une bonne réponse.
C'est bien.
Voilà. Vous verrez croître votre investissement. Vous prendrez plaisir à toucher votre argent. Ensuite, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que votre femme
mette la main au porte-monnaie.
Dévore vos économies. et vous serez le seul à décider où le placer. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà, c'était votre conseiller en investissement. Bonne journée.
Black.com pour aller jouer présenter cette chronique.
Pour aller jouer en bourse.
Pour aller jouer avec.
C'est pas mal, voilà, ça.
Pour aller jouer en bourse.
Enfin bon, moi, toi, t'es fort,
moi j'ai trouvé
c'est
ça.
Pas le cul des bourses.
Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire un truc qui s'appelle. Donc là-dedans, il y a plein de définitions. Mais mitraillette, par exemple, vous savez ce que c'est?
Moi, je sais. J'adore la mitraillette.
Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas du tout ce que tu penses.
Non, ça n'a aucun rapport avec le sexe, Héloïse.
Non, Héloïse.
Ne parle pas. Non, c'est bon. Donne la réponse.
En plus, c'est Héloïse, tu parles la bouche pleine.
Déjà, la vitarelle, c'était là.
C'est bon, Nico, donne la réponse. C'est un
sandwich.
Alors, c'est un. Elle a raison. C'est un tronçon de baguette de pain rempli de frites. Déjà, bon, du pain avec des frites, c'est pas facile. Déjà, les frites seules, mais le pain avec des frites. Voilà, viande, frites et sauce. Raoul. Mais deux mitraillettes merguez, sauce riche. La mitraillette, fort populaire dans les années 70 et 90, a été depuis peu un peu détournée par le durum, sorte de crêpe turque farcie de viande, ayant succédé au pita grec par un phénomène d'envahissement gastronomique progressif, vivement que le méga sushi les remplace. Voilà, ce genre de d'humour. Alors,
rien ne peut battre la pita grecque.
Je vais vous en faire un autre quand même.
Fauchez-le.
Parce que j'ai trouvé ça pas mal. Qui ça s'appelle la mouflette. La mouflette. Vous savez ce que c'est que la mouflette?
L'animal?
Non, ça vous devez le savoir parce que c'est vrai que dans le nord de la France quand même.
Oui, enfin, c'est une tarte à base d'alcool.
Eh ben non. Alors ça s'appelle. On l'appelle ça aussi un Mickey.
Une crotte de nez.
Voilà. Snot ou snotbel ou un le. Crotte de nez. Oh, merde. Moreau a encore éternué. Son t-shirt, titoff et plein de mouflettes. Voilà, parfois qui pend, on peut en faire des boulettes et les lancer ou les coller sous la table ou sur les murs. On peut les faire sécher par le chien, lécher par le chien. On peut aussi plus physiquement les manger. Vive le recyclage. Voilà un petit peu dans quel style c'est écrit.
D'accord, bon. Et c'est que des définitions en fait.
C'est que des définitions.
Ah, voilà. C'est cool, comme ça tu peux le prendre quand tu veux, voilà. Le reposer. C'est drôle ou pas?
Ouais, c'est
ça
marrant.
Ça va t'aider pour tes prochains voyages à Bruxelles?
Ouais, je pense que je vais garder des mots pour leur dire arrête de manger tes mouflettes. Voilà, non mais il y a énormément de mots. Alors bon, c'est fait avec facilité, c'est pas un bouquin vraiment intéressant, mais on passe un petit moment sympa. Il se prend pas du tout la tête, Philippe Génion, il dit de lui qu'il est gros et fier de l'être. Donc il est vraiment gros, il est vraiment fier de l'être. Et puis qu'il est épicure tout, en fait, voilà.
C'est bien ça.
Voilà, alors il est œnologue, il est œnophile, il est naturaliste, il est musicien rock industriel, il est artificier, il est critique gastronomique, il est organisateur de concerts et de conventions, un peu de cinéma et de télé. Et en plus, maintenant, il se met à écrire. Voilà, en gros, c'est ce qu'il définit.
La maison d'édition, c'est ?
Alors la maison d'édition, c'est...
Point.
Le Au point. Point. Ouais, ok. Point. Merci Nico.
C'est dirigé par Philippe Delerme, l'édition.
Ah bon?
Enfin, la collection. Alors.
drôle.
Allez, avant que tu présentes ta chronique, c'est la règle une blague, Héloïse.
Mais j'en ai.
Je ne veux pas savoir.
Ça compte pas tout à l'heure?
Ah non, ça compte pas.
Non, ça compte pas, t'as rien dit. Alors, après.
Une blague.
Livre.
Alors, ça se passe dans un frigo. Et. dans la porte d'un frigo.
Et pas ça, Héloïse.
Si,
non, c'est dégueulasse.
Dans une boîte d'œufs.
Oh.
Et en fait, il y a un nœud qui regarde son voisin et il parle. Un œuf.
Pourquoi un nœud dans une boîte d'œufs?
Ouais, mais c'est toujours la vitarelle.
Un œuf.
Qui... Ah oui, c'est vrai, c'est sexuel encore.
Mais oui, c'est ça, un nœud qui regarde son voisin.
Non.
Deux œufs avec un nœud.
Ok, pardon, donc il y a un œuf qui regarde son voisin.
Il y a un œuf qui regarde son voisin et qui lui dit bah dis donc, toi, t'es tout poilu. Et l'autre, il répond bah c'est normal, je suis un kiwi.
Super Héloïse, bon alors je vais présenter. C'est dans le journal de Maurice Cadeau. Prévoisant note parce que du coup
c'était pas un cadeau. Je t'ai dit qu'aujourd'hui je voulais présenter mes deux livres.
Tu les présenteras, il n'y a pas de souci. Un dernier livre que je présente, on fait la pause musicale, on vire Nico parce qu'il n'est pas drôle et après on reprendra
et
avec tes deux livres.
Est-ce que tu as une blague?
Ouais, j'ai une blague. Alors, c'est deux grand-mères qui ramassent les patates au potager. Et il y en a une qui dit à l'autre « Oh, on dirait les couilles de Victor !» L'autre, elle lui dit « Elles sont aussi grosses ?»« Non, elles sont aussi sales.
Oh »
Bon appétit, messieurs, dames.
Alors, c'est dans le journal. Je vais aller très vite parce qu'il n'y a pas besoin de s'épancher dessus. C'est un ensemble de titres de presse dite populaire. Donc, presse dite populaire, on entend France Dimanche, Ici Paris, Le Nouveau Détective, Radar, Nostradamus Illustré, voilà, que des trucs comme ça. Donc, tout le long avec des grosses typographies, il y a ces titres. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Le dîner tourne mal, violé, tué et dévoré par son invité. Voilà, et c'était le titre d'un article qu'ils ont sorti, sachant que cette presse, des fois, c'est une presse qui affabule, qui invente des histoires, notamment Nouveau Détective. Quéquette 69...
Oh, attends, qui affabule, Nouveau Détective?
Le Nouveau Détective affabule. Ah, si,
non,
je suis désolé.
C'est que des affaires très, certes, un peu...
Pas du tout. Mais... Quéquette 69, un pseudo dont elle aurait dû se méfier. Voilà. Le mari qui prêtait sa femme la tue par jalousie. Oui, j'ai dépecé ma femme, mais je ne l'ai pas tuée. Le conducteur ivre n'avait presque aucune trace de sang dans l'alcool. Des nouveaux impôts, c'est leur idée fisc. Alors, je n'ai pas tout sorti, mais...
Nous, on aurait pu la
dire, ça. Ouais.
Le corps flottant était une poupée gonflable. Alors ça, c'est pour Nico. Elle montre ses énormes fesses à tout le monde. La femme pastèque a-t-elle pris le melon?
Pourquoi c'est bon moi
je sais pas.
Bon, j'aime bien la pastèque et le melon, mais...
Allez, un dernier pour la route. L'exhibitionniste se reprend en main. Voilà. Donc, ouais, c'est, ouais, ça, c'est pour votre beau-frère. C'est le cadeau de
T'as
Noël
pas,
pour le beau-frère.
Un petit son qui va avec.
Ouais, si, je dois pouvoir trouver. Non, mais moi, je m'humilie pas. Je m'humilie les autres. C'est ça d'avoir les mallettes.
Oui, c'est ça.
Donc voilà, un Nico pour ton beau-frère, par exemple, je suis sûr que ça va lui plaire à Noël.
Ouais, c'est une bonne idée. Ouais.
Je le connais pas, mais je dis ça au hasard.
Bah, on a tous un beau-frère.
Hein. Oui. Il est en bas, il t'attend.
Surtout que.
Ouais, Kung Fu Fighting.
Moi, je m'en fiche, Apolline, elle est troisième dan en judo.
Karaté.
En karaté.
Premier dan en karaté.
En première, c'est pas mal quand même. Donc voilà, c'est dans le journal Maurice Cadeau, les éditions de L'Opportun pour les gens. Potage de vos familles. 1h07, est-ce qu'on a le temps de qu'Héloïse présente son livre avant la pause musicale ou pas?
Moi, j'ai juste une petite blague à vous raconter.
Allez, une petite blague.
C'est Jazz Band, c'est Jazz Band qui est poursuivi par un chasseur soviétique, donc il est dans son avion, il est là et tout ça, et puis il se fait bombarder, et en fait, comme il se fait bombarder et tout ça, il est là en déperdition, donc il arrive, il se dit, ouais, où est-ce que je vais atterrir? Bon, il voit un champ et tout ça, une petite ferme, ouais, il atterrit en catastrophe, tout ça, et puis, bon. Et là, il sort dignement de son cockpit, comme ça, très classe, et là, il voit une petite bonne femme qui arrive et qui dit, bah, dis donc, mon gars, attends, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fous là? Tout ça. Et il fait, moi, Bond, James Bond. Et elle le regarde, il fait, monde. Arrêt, monde.
T'as piqué la blague à Héloïse.
Allez.
Ah non, mais celle-là, c'est pas blague.com, ça, c'était la mienne.
Allez. C'était ma blague et tous mes amis reconnaîtront la seule blague que je connais par cœur.
Bon, Héloïse, avant de présenter ton livre, une blague.
Non, mais en fait, j'ai choisi une chanson blague pour la pause musicale. Je pense que ça peut compter.
Ouais, c'est super. T'as raison.
Très, très bonne chanson. Donc, on va écouter...
Bon, désolé, Héloïse, je t'ai piqué ta blague.
On va écouter Doc Gynéco et Bernard Tapie. Qui nous raconte C'est beau la vie.
Fond blard, j'ai rencard avec nanar. Appelle les ch'tards, v'là Bruno Escobar. Touchez mais pas couler, merci de l'invitation. Sur ce, on est en sursis. N'oublie jamais d'où tu viens. La rue c'est mon terrain, chacun sa part pour la bagarre. Tu les as vus, les petits taulards? Tu les as croisés au parloir? J'ai vu ce que c'est que le désespoir. Faites le canard. Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire à leur mytho. Adhère à notre parti mec, c'est pas trop tôt. Arrête de compter en barrette. On te manipule la tête. Tu votes mon pote. Quoi qu'il arrive sur la planète Terre. Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères. C'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire.
C'est beau la vie.
Oh oui.
C'est beau la vie.
Qu'est-ce qu'on vient foutre ici? Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits. Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici? Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé. Alors putain, dis-moi, ce match, on te l'a vendu?
Mais tu rigoles, je les aime, la Valencienne.
Valencienne, j'ai rangé mon jeu de frappe et ma pince, mon seigneur. Acceptez cette prière, elle vient du cœur. Et quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours
le gangster
qui contrôle l'affaire. Qui contrôle l'affaire.
C'est beau la vie. C'est beau la vie. C'est beau la vie.
C'est beau.
Levez la gauche et dites, je le jure.
Tu croyais quoi? Qu'il y avait des bons, qu'il y avait des blancs, qu'il y avait les noirs et les méchants, qu'il y avait dehors et puis dedans. Ah, tout n'est pas si facile.
Tout ne tient qu'à notre style. On absorbe la lumière, on ne la rendra pas.
Jamais.
Dans les ténèbres, on a fait nos premiers pas. Y'a que les morts qui ne parlent pas avant qu'on fasse sauter le pas. Dans un Merco 600, dans une histoire de points ou de pourcents.
2%.
Ouais, quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours
le gangster
qui contrôle l'affaire.
Toujours.
Qui contrôle l'affaire.
Toujours l'affaire.
Qui contrôle l'affaire.
Toujours. Gangster.
Contrôle l'affaire.
On arrête les blagues là, on a repris.
Tu dis quoi, Nico? Allez, Héloïse, c'est à toi.
Oui, donc je vais présenter. donc j'étais sur le site préféré de Nico.
Non, c'est vrai, c'était à ta demande.
Celle où il y a des photos un peu olé olé.
Non, celle blaguemarrante.com. Ah, et donc il y a une blague mais qui n'est pas très drôle. Donc est-ce que je peux vous pouvez mettre un veto et qu'on
non
j'ai envie de rire. Fais quelque chose de drôle.
Alors Jacob rencontre Lévi dans la rue. Alors Lévi, il parie que tu vas te marier. Oui monsieur Jacob, d'ailleurs vous voyez, j'ai fait mes valises pour partir en voyage de noces. Bien, où tu vas? À Jérusalem monsieur Jacob.
Elle fait bien Lévi.
Très bien, mais où est ta femme? Au magasin, monsieur Jacob, comme ça on peut rester ouvert pendant mon absence. Oh. Voilà. Je vous avais dit que c'était c'est pas drôle.
Elle est même limite.
Tu vas avoir le crif, tu vas avoir le crif sur le dos, toi.
Okay. Je suis désolée.
Donc, Pauline, tu vas nous présenter ton. Allez, vas-y. Héloïse, tu nous proposes un jeu de l'art d'ennuyer en racontant ses voyages.
Voilà, tout à fait.
Allez, Nico, tu es viré. Tes imitations ne valaient pas la peine.
Ah. Donc, un livre de Mathias De Bureau aux éditions Alary. Donc,
Alary.
C'est oui. Quoi ce bruit?
C'est ta chaise.
On a scié un pied pour que tu tombes.
C'est extraordinaire de faire du bruit et l'air de rien de dire mais qu'est-ce que tu fais, Valérie?
Donc, en fait, chaque année, 1 milliard de touristes parcourent le monde. En 2020, ils seront 1,5 milliard à vous assommer avec leurs récits de voyage. Voilà le résumé de ce livre.
C'est vrai.
Et donc, ce livre est présenté comme un guide pour réussir à être le plus ennuyeux, le plus pédant, le plus chiant possible en racontant son voyage, à son retour de voyage, à ses amis, à sa famille, à ses frères et sœurs. Et donc, c'est au retour du voyage, mais aussi pendant le voyage, parce que maintenant, il y a cette magnifique invention qui est Facebook, il y a les blogs, il y a les mails, etc. Donc, on peut embêter tout le monde pendant et après le voyage. Donc, il nous livre ici toutes les astuces pour jongler avec les pires stéréotypes et les préjugés du voyage et sur les pays. Et donc, quitte à ennuyer les gens, autant le faire en beauté et à fond. Donc évidemment, il s'agit d'un livre, il s'agit dans ce livre d'exagérer les traits parfois agaçants qu'ont certains voyageurs à leur retour. Donc je parle des diaporamas interminables, le fait d'en mettre plein la vue, d'avoir tout compris à la vie parce qu'on a passé une semaine au bord d'une piscine. Enfin voilà, c'est exactement ça. Donc je pense d'ailleurs que quiconque ayant voyagé, quelle que soit la destination, se reconnaîtra un minimum. Donc c'est un livre plein d'autodérision. Si on n'a pas d'autodérision, il faut passer son chemin. Et d'ailleurs, Sylvain Tesson, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un grand voyageur qui a écrit, par exemple, dans les forêts de Sibérie, qui a écrit pas mal de livres dans le style de Thoreau, etc., des livres vraiment sur le voyage, a écrit sur ce livre, c'est à mourir de rire. Je l'ai lu d'une traite en Belgique où je donnais une tournée de 80 conférences sur mes voyages. Donc, en effet, voilà, c'est très drôle. C'est écrit dans une langue acide, ironique, c'est vraiment délicieux. Je vais vous lire deux petits extraits pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne vraiment. Donc juste le début du livre. Chiant qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Car pour quelques bouches d'or au récit merveilleux, combien de fâcheux et d'importuns. Combien de Carthaginois mythomanes brodant sur leur virée à dos d'éléphant, combien de Vikings ressassant leur viol sous les étoiles en trinquant avec des cornes éclaboussantes d'hydromel, combien de chevaliers gâchant de somptueux banquets en étalant leur croisade et leur façon très personnelle d'embrocher les sarrasins. Et donc, deuxième passage, donc là c'est un conseil au niveau de la posture à adopter quand on raconte ses voyages. Optez pour une posture qui a fait ses preuves en comptant vos aventures. Le coude sur une cheminée Pompadour ou les mains en prière au-dessus d'une tagine d'agneau. En position assise, prenez du recul et laissez pendre nonchalamment un bras sur le côté. Laissez flotter une pointe de mélancolie dans le regard, comme si votre pupille avait retenu quelque chose de l'infini contemplé, et regardez fréquemment en direction de la fenêtre pour authentifier votre besoin de liberté. Voilà, donc ce livre est extrêmement drôle, c'est à la portée de tout le monde, c'est court et c'est génial. Voilà, je le conseille à toute personne ayant de l'humour.
Pour supporter le beau-frère qui raconte son voyage.
Ouais, exactement. Excellent, Héloïse.
Tu pourrais finir par une petite blague.
Non, mais j'ai presque envie de te donner la parole pour ton deuxième livre, histoire qu'on ait une blague de plus.
Allez,
t'as la parole, Héloïse. On va, avant de parler...
Ouais, j'ai pas de blague.
Oh. Quoi, t'as pas de blague ?
Non, je...
Quoi, comment ça ?
Est-ce Allez, que vous voulez une blague à deux balles ?
Ouais.
Pan-pan.
Très bien, Héloïse, tu vois quand tu veux. Allez, t'as le droit de présenter manuel érotico-culinaire judéo-japonais et comment élever les loups.
Tout à fait, je ne vais pas le répéter. Et de Jack Douglas aux éditions Wombat. Donc Jack Douglas est très peu connu en France et en Europe. Pourtant, il fut une figure hollywoodienne importante dans les années 30 jusqu'aux années 50-60 aux États-Unis. C'est vraiment un homme touche-à-tout. Et bien avant d'être auteur, il était acteur comique, un pionnier du stand-up, animateur de show à la télévision, musicien, producteur, pilote de course. Enfin, il a une vie assez incroyable, ce monsieur. Il a écrit quelques livres qui ont eu beaucoup de succès à leur parution aux États-Unis. Tous sont des histoires vraies tirées de ses propres expériences. Et au vu du CV du bonhomme, on imagine que c'est passionnant et que c'est drôle et original. Donc du coup, dans celui que je vais vous présenter, donc Manuel érotico-culinaire judéo-japonais et comment élever les loups, Jack Douglas nous présente une période de sa vie où il quitte Hollywood et il va s'installer à la campagne avec toute sa famille, qui est composée donc de Reiko, sa pétillante épouse japonaise. Ses deux garçons, Bobby et Timothy, son husky, son puma de 100 kilos nommé Pussycat et son loup qui s'appelle Wolf. Donc Jack a la passion des animaux sauvages et donc contre l'avis de sa femme évidemment qui ne supporte pas les griffes, les excréments dans toute la maison et qui a peur pour ses petits-enfants parce qu'un puma de 100 kilos et un loup de pas moins de 70 kilos en toute liberté, ça fait peur. Et donc, il déménage à la campagne avec toute cette famille. Et dans cette nouvelle ville, il forme un espèce de club d'amoureux de la nature qui est composé d'une bande de joyeux de riz, un couple d'antiquaires gays, un ivrogne fou du volant, un docteur zoologue et coureur de jupons. Enfin, il y a pas mal de personnages assez atypiques. Ils sont tous très portés sur l'alcool et leurs réunions se résument souvent à des disputes avinées pour savoir s'il vaut mieux sauver le gnou ou l'oiseau des marais, mais sans aucun argument valable. Et donc, c'est déjà, rien que le fait de la retranscription de ces réunions, c'est très drôle. Après, Le livre porte sur la réinsertion de son loup en fin de compte dans la nature, parce qu'un jour Jack en fait se rend compte que c'est pas, bah, que c'est pas juste et que c'est très égoïste de sa part de garder un animal sauvage chez lui. Pour Pussycat, donc pour le puma, c'est trop tard parce qu'il l'a depuis qu'elle est toute petite et elle est très âgée. Mais pour son loup, il est pas trop tard, donc il se lance avec son association écologique dans la mission en fait de le réadapter et de lui réapprendre à vivre dans la nature. Donc il lui adjoint une femelle, ils ont des enfants et après ils partent tous au Canada pour essayer voilà, de les réinsérer dans la nature. Donc l'auteur a une façon vraiment irrésistible de raconter tous les déconvenus, les caractères des uns des autres. Il y a beaucoup d'autodérision, c'est vraiment excellent. J'ai beaucoup ri en lisant l'ouvrage et c'est vraiment improbable comme histoire et c'est d'autant plus drôle que c'est une histoire vraie quoi. Et c'est aussi touchant de voir l'amour inconditionnel de cet homme pour les animaux sauvages et les débuts, en fait, les prémices de l'écologie. Ouais, je vais vous lire un petit extrait, si on a le temps.
Bien sûr.
Oui. Ouais. Donc, il y a une présentation des animaux de compagnie à l'école du petit garçon de Timothy. Et donc, tous les camarades de Timothy ne veulent pas croire qu'il raconte qu'il a un loup chez lui. Donc, il demande à son père, il supplie son père d'amener Wolf à l'école. Donc là, c'est un bout du trajet qu'il effectue en voiture jusqu'à l'école pour amener le loup. Le trajet de 11 km jusqu'à l'école d'Old Bride Street restera un cauchemar mémorable. Wolf, qui n'avait guère eu l'occasion de voyager en break jusque-là, s'effrayait du moindre arbre, de la moindre ferme, du moindre pick-up garé, de la moindre feuille étrange frémissant sur un chêne effleuré par la brise. Il essayait alternativement de se tapir derrière le siège arrière et de se rendre invisible sur mes genoux. Avoir un loup de 70 kilos sur les genoux pendant qu'au volant d'une voiture vous descendez une étroite et sinueuse route de montagne peut changer du tout au tout votre attitude envers la vie. Subitement, elle devient très précieuse, car quelque chose vous dit qu'il ne vous en reste plus pour très longtemps. Tandis que vous foncez vers le virage du saut des amants sans pouvoir atteindre la pédale de frein et que les deux pattes arrière du loup appuient sur celle de l'accélérateur. Je voyais déjà les gros titres. Un écrivain célèbre tué dans un accident de la route, le loup était au volant. Voilà, donc c'est super, original, c'est à découvrir. Très drôle.
Allez, merci beaucoup Héloïse.
Ben, merci à vous de m'avoir persécutée pendant toute l'émission.
Mais non. Alors, donc, Valérie, une petite blague avant de présenter ton ouvrage. Elle a 10 livres sur la table, Valérie.
Oui, presque. Bah, j'hésite. Il existe tellement de livres drôles et on m'en a fourni.
Est-ce que je peux choisir ?
Oh, comme par hasard, tu vas prendre celui d'en haut ? Hein ? Comme par hasard.
Moi, je veux les cahiers d'Esther.
Ouais, les cahiers d'Esther, c'est, je crois qu'il faudra qu'on prenne une chronique un peu plus longue pour en parler. Je vais parler de
ça. Et si c'était mai ? Non.
Et si c'était gay, tu m'as dit tout à l'heure.
Non, mais. Non.
Et si c'était niais ?
Niais.
Et si c'était niais, et ce que tu as dans la main, c'est le Givenchy Code.
D'accord.
Et ce qui est en dessous, c'est l'élégance du maigrichon.
D'accord.
Voilà.
Donc là, ces titres me font penser à des titres célèbres.
Oh oui, bien joué, bien vu. Alors, comment on va en parler de façon tout à fait objective ?
Fais attention, celui qui te les a prêtés, écoute.
Je sais, c'est pour ça que je vais essayer de faire bien. Non, le souci qu'il y a eu, c'est qu'il me les a gentiment prêtés, et donc il y en avait 4. Du coup, je crois que j'en ai fait une overdose. Mais, par contre, ça a le mérite d'exister et d'être quand même assez drôle. Mais il ne faut surtout pas, je ne parle pas de celui qui me l'a prêté, mais de l'auteur. Je pense qu'il ne faut pas lire les 4 d'affilée parce que ça se ressemble trop. Si on prend par exemple les 6 éteignés, à l'intérieur, c'est Pascal Fioretto qui reprend, vous l'avez bien compris, des parodies d'auteurs qui existent réellement. On a Mélanie Notlong, Bernard Verbeux, Anne Galvauda. Et il reprend des extraits de livres existant vraiment, avec un peu la plume de l'auteur originel, de façon complètement détournée, quoi. C'est potache, mais c'est très très drôle. Après, voilà, il faut pas lire l'élégance du maigrichon plus et si c'était nié d'affilée. Sinon, ça fait un petit peu trop. Mais c'est très drôle, voilà, parce que mine de rien, malgré son humour potache, c'est quand même assez extraordinaire d'arriver à reprendre l'écriture, la forme de l'auteur, en fait, de l'auteur original, parce que parodier d'Ormesson, puis après Amélie Nothomb, c'est quand même pas la même plume, et c'est très très bien fait.
Amélie Nothomb.
Voilà.
Excellent, merci de ta présentation.
De rien.
Pauline.
Un petit dernier ?
Ouais. Non, tu...
Ma
qu'est-ce
blague.
Qu'il y a...
Ah, ta blague.
Ah oui,
ta blague. J'ai pas fait ma blague.
Non, et moi, je veux savoir aussi, Valérie, les cahiers d'Esther.
Ouais, mais ça, c'est un super truc. Mais alors... c'est un chat qui entre dans une pharmacie qui dit « Il me faudrait du sirop pour ma toux.
Ah, » très bien, double blague. J'ai un chat dans la gorge, il a dit.
C'est deux patates qui traversent la rue. Il y en a une qui se fait écraser, l'autre qui fait « Oh, purée !»
Super. Alors, les cahiers d'Esther.
Troisième.
Non, ah, c'est vrai, merci.
Les cahiers d'Esther, donc de Riyad Satouf.
Le très connu bah Riyad
ouais,
Satouf.
Le mondialement, internationalement, angoulémiment connu Riyad Satouf, qui nous présente les cahiers d'Esther. Ceux qui lisent régulièrement le Nouvel Obs connaissent, puisqu'ils le voient. Mais la prochaine fois, tu l'achèteras. Et en dernière page, en fait, tu as la.
Arrête d'acheter Détective et prends quelque chose d'un peu mieux, quand même.
Le nouveau Détective privé. Voilà, c'est un recueil d'histoires que je pensais pas vraies, mais a priori, si. C'est donc une petite fille qui s'appelle Esther. Donc, sur le premier tome, ça couvre la période de sa vie de 9 ans et demi jusqu'à ses 10 ans. Donc, c'est la période de CM1 jusqu'à la rentrée en CM2. Et Esther, c'est une petite fille donc, qui raconte un peu sa vie. Donc, une page, une BD, un passage de vie. Alors, c'est des vrais moments. C'est une famille donc parisienne, papa, maman et le grand frère. Donc papa est l'idole de sa fille. C'est un prof de sport bien musclé, qui a des idées très arrêtées, qui surprotège sa fille. La maman, c'était une maman qui était certainement très belle quand elle était jeune. Et la petite fille, elle aime très fort. Mais c'est vrai que des fois, elle est un peu dure envers sa mère. Mais c'est plein d'amour quand même. Et le grand frère, c'est un con. C'est un gros con. Voilà, et c'est elle qui le dit comme ça. Et elle est, on sent qu'il y a de l'amour entre frères et sœurs, mais elle ne le supporte plus. Voilà. Et en fait, Riyad Satouf, c'est vraiment... Donc Esther, ce n'est pas son vrai nom dans la vraie vie, mais c'est vraiment la fille d'une amie à eux. Et régulièrement, il a au téléphone, il discute, elle lui raconte ses journées, un peu sa vie, ses problèmes d'enfant. Et il a réussi à en faire des petites BD, des petites planches. Et c'est très fin. Et il y en a une notamment, je crois, qui est tout au début. Là, c'est le premier tome. Il y en a un deuxième qui va sortir ou qui est sorti, je ne sais pas.
Oui, il va sortir, ouais. Et en fait, cette petite fille, il a l'intention de la suivre jusqu'à ses 18 ans.
Ah, super.
Voilà, donc il va y avoir plein de tomes. Et il y a une vraie relation d'amitié. Ça, c'est touchant.
D'ailleurs, elle parodie dans le tome 2. Enfin, sur le Nouvel Obs, il y a déjà une interview d'un journaliste où il demande la question « Est-ce que ce n'est pas trop lourd d'être sans arrêt au téléphone avec Riyad Satouf pour raconter tes histoires ?» Et moi, il y a une image qui c'est drôle. Alors, ce n'est pas une BD pour enfants. C'est une BD, je pense, pour adultes. Notamment, il y en a une où la petite fille, évidemment, son rêve dans la vie, c'est d'avoir l'iPhone 6. Elle est... obnubilée par ça, et son père lui dit non, ce sera quand tu rentreras au collège. Et en fait, elle raconte que aujourd'hui, ils sont une famille assez pauvre parce que ils habitent à Paris, mais ils ont un appartement, il n'y a que deux chambres. Elle est obligée de partager la chambre avec son frère, et ça revient assez souvent. Et puis, à la fin, elle dit oui, on est une famille un peu pauvre, et on voit toute sa famille, donc papa, maman et le frère, sur le canapé en train de regarder un smartphone. Et elle dit puis de ma famille, c'est moi la plus pauvre. Voilà, c'est on en prend un petit peu dans les dents en tant que parent par moment. Cette première BD, elle est assez soft. Hein, elle est plus sur les sentiments de l'ado avec les copines. Il y a un petit peu sur le racisme. Il y a l'image aussi du père qui refuse que sa fille aille dans une école publique alors qu'il est... je veux dire, il n'y a pas plus, enfin, on ne peut pas dire républicain avec pas le R majuscule, hein, le républicain avec R, que lui. Mais malgré tout, il ne veut pas que sa fille aille dans l'école publique parce qu'il ne veut pas qu'elle ait de mauvaises fréquentations. Et finalement, elle le dit, mais dans mon école privée, s'il savait mon père, c'est assez rigolo. Et plus ça y va, plus ça monte crescendo, elle prend un peu de plomb dans la cervelle, enfin, elle en a beaucoup, et elle commence à tacler un petit peu la religion. Et là, sur la suite donc, qu'il y a dans le Nouvel Obs pour l'instant, là c'est le Père Noël qui en prend pour son grade un petit peu, puisqu'elle commence à avoir des doutes, et dans la suite, ça passe au niveau supérieur avec Dieu, et notamment avec le Père Noël, c'est on fait croire ça aux enfants, et Dieu, on fait croire ça aux parents. Enfin,
c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de cette jeune fille, en effet, et c'est vrai que
c'est
très drôle,
c'est vraiment,
c'est touchant. Ouais.
C'est fin, hein, c'est pas des grands fous rires, mais c'est plein de
sous-entendus. C'est une page, une histoire
super,
aussi.
Ouais. Voilà, et c'est vraiment bien fait. Bon, après, le dessin est super. La petite fille Esther a même son frère qui est con et qui rêve d'avoir une coupe de footballeur qui l'obtiendra à la fin.
À quel prix
voilà,
il se fait engueuler d'ailleurs.
Il est plus un, mais on l'aime bien. Enfin, c'est vraiment super intéressant. C'est, son verbe, il est génial. Même si on pourrait la détester d'aimer Cheval Magazine, d'avoir des secrets, enfin, des trucs un peu...
Comme tu.
Oui, mais pour un adulte, ces trucs de pré-ado, ça fatigue. Mais finalement, dans la bouche d'Esther, ça passe super bien. Puis il y a des moments un peu durs. Elle a son ami qui perd son papa. C'est super triste. Et puis la chute de l'histoire, c'est que ben en fait, elle revient à l'école, mais elle s'en fout. Elle a le dernier Samsung Galaxy, je sais pas quoi. Et ça montre aussi toute l'aberration de la maman qui, pour faire passer le chagrin de sa fille, va lui offrir un smartphone. Enfin, c'est plein de choses comme ça, les découvertes de l'amour, c'est waouh.
Merci Valérie, les éditions Alary édition, Riyad Satouf, les cahiers d'Esther, l'histoire de mes 10 ans. Alors c'est l'heure, il est 1h30.
Oh, j'avais une blague.
Non. Si tu y tiens vraiment, Pauline, on peut rallonger l'émission, sinon on s'arrête là.
Bon. Non, c'est bon, ça va aller, on va rester sur Riyad Satouf, c'était sympa.
Voilà,
c'est
exactement. Dans 2 semaines, chère Héloïse.
Oui, dans 2 semaines, on parle de livres jeunesse, de livres engagés pour les jeunes, pour expliquer certains sujets aux enfants, notamment le vivre ensemble. On peut parler de religion aussi, de tout ça, la condition des filles, enfin plein de choses dont il faut parler.
Allez, à dans 2 semaines. Ciao.
Ciao. Ciao. Bisous.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas.